bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
C'est la bande originale, bienvenue et merci de nous rejoindre avec les lettres de
bonjour à tous.
Agnès Surstel,
bonjour.
Milla,
bonjour.
Daniel Morin,
bonjour Agnès.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau et notre invité, Monsieur François Hollande. Ça va François ?
Ça va.
On est ravis de vous accueillir, ravis parce que on a adoré votre film Grâce à Dieu, qui est une œuvre d'art parce que c'est un film et qui en plus est une œuvre d'art qui me paraît utile et urgente à la société dans laquelle nous vivons. Mais d'abord, je ne peux pas faire autrement. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Parce que c'est une journée très particulière pour vous.
J'essaye d'être zen.
Ouais. Et confiant ? Parce que vous avez.
Oui, parce que j'ai confiance à la justice française et je sais le film, voilà. Le film que j'ai fait. Voilà, il y a des avocats qui essayent d'interdire la sortie de ce film. Et donc nous, on essaye d'expliquer. Enfin, ils veulent repousser après
le
procès, le différer après le procès du père Prénat, pour lequel il n'y a pas de date qui est prévue pour l'instant, peut-être fin 2019 ou 2020.
Donc ça peut être repoussé sine die.
Oui, parce que s'il fait appel en plus de son jugement, le film ne pourrait toujours pas sortir. Donc c'est la mort du film et c'est une forme de censure déguisée à travers ces appels d'avocats.
Film qui a été récompensé à Berlin ce week-end de l'Ours d'argent, le prix
du
public.
Ça fait du bien.
Ça doit faire du bien psychologiquement, ouais.
On passe du haut au bas.
Ouais, ça oscille.
Non, c'est totalement mérité. En tout cas, on a eu la chance de le voir, ce film, avant sa sortie ce mercredi. Sortie sur laquelle je n'ai aucun doute, parce que j'ai, comme vous, confiance dans notre justice et dans son intelligence, de voir d'abord, le travail qui a été effectué, la manière dont vous observez tout le parcours, d'abord de révélation, mais aussi de résilience de la part des victimes de cet abbé Prénat. Il n'y a pas de débat d'ailleurs sur le fait qu'il ait eu un comportement pédophile.
Non, il a toujours avoué.
Il a toujours avoué.
Il a toujours avoué. Voilà. Et tout ce que je raconte par rapport à l'affaire proprement dit, tout l'aspect fait divers, a déjà été publié par beaucoup de journalistes.
Évidemment,
il y a eu des reportages, il y a eu un livre d'Isabelle de Goldman sur l'affaire. Voilà, donc moi, il y a
c'est pas ce qui est ridicule par rapport à la plainte qui a été déposée.
Pas de révélation.
Voilà.
De toute
façon, pourquoi ils n'ont pas attaqué les livres avant et pourquoi surtout ils n'ont pas empêché le procès en janvier du cardinal Barbarin de 5 membres de l'Église pour non-dénonciation des faits commis par Bernard Prénat. Donc tout ça est assez illogique et assez kafkaïen. Mais ce qu'on voit surtout, c'est la résistance de l'Église en général à casser, à briser ce silence, cette omerta qu'il y a eu pendant des années sur les faits de pédophilie en son sein.
Mais votre prisme a été de prendre encore une fois les... Parce qu'il y a plusieurs chemins. On accompagne...
Il est sur les victimes. Les héros de mon film, c'est pas Prénat, c'est pas Barbarin. Eux, ils sont vraiment secondaires. Les personnages principaux, ce sont ces victimes, ces personnes qui ont osé libérer leur parole. Et je montre l'effet double peine que ça peut représenter. Ils ont souffert dans leur enfance des crimes de Prénat, et après quand ils osent libérer leur parole, il y a encore beaucoup de répercussions autour d'eux qui sont très difficiles à vivre. Et je voulais montrer qu'il y avait, c'était un chemin de croix, mais c'est un chemin de croix héroïque.
Ouais.
Et c'est ça qui m'intéresse.
Joué et porté par Melville Poupeau, Denis Ménochet. Alors, on l'a déjà dit 25 000 fois qu'on était fan ici.
Enfin,
il est juste dingue. Swann Harlow, qui est formidable aussi. Il faut préciser quand même tous les comédiens. Puis alors, moi, je dis toujours la même chose, hein. Lorsque autant de comédiens sont aussi bons dans un film, c'est qu'ils sont bien dirigés et qu'il y a un bon réalisateur. Je vous le dis dans le blanc des yeux. Parce que c'est fou. Il n'y a pas un comédien. Il n'y a pas une scène. Il n'y a pas un regard où on se dit, où on sort du film, quoi, et où on se dit là c'est un peu surjoué, c'est exagéré. Tout est d'une justesse.
Bah c'était l'enjeu formidable du film. Comme c'est d'après les faits réels et des gens qui existent vraiment, il fallait être à la hauteur de leur combat. Donc trouver à chaque fois le meilleur acteur pour chaque personnage.
J'ai réussi.
Josiane Balasco, Hélène
Josiane
Vincent.
Balasco.
Eric Carabaca.
Qui joue les mères.
Incroyable. On ne pense pas une seconde que c'est Josiane Balasco. D'ailleurs.
Hélène Vincent sur... Enfin, sur un regard, sur une question, c'est quoi ? C'est qui veut du clafoutis ?
C'est la quiche.
C'est la quiche, pardon. Ouais, c'est la quiche. Qui veut encore de la quiche ?
Non, ce qui était très agréable pour moi, c'est que tous les acteurs qui sont venus sur ce film, ils sont venus pour des bonnes raisons et pas pour des raisons financières.
Ouais.
Voilà, parce que le film a été compliqué à monter, c'était un film qui était difficile à produire. Et donc, ceux qui sont venus, c'est parce qu'ils avaient envie de défendre cette cause et d'en faire partie.
Difficile
on va en reparler.
Parce que le sujet ne doit pas inciter beaucoup de gens à partir avec vous dans
l'aventure. C'est pas très bankable, là. la pédophilie dans l'église.
Il y a un partenariat avec KTO, mais bon,
c'est... Ah non, on a eu toutes les... Là, je dois avouer qu'au contraire, il y a eu des refus de beaucoup de partenaires catholiques. Pas, ça venait pas des journalistes, mais ça venait plus des directions.
Mais vous avez quand même des une diffusion promise par des chaînes, je sais pas, Canal, France Télé, TF1, enfin il y a bien quelqu'un, des partenaires.
Oui, 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 il y a le service public, France 2, OCS.
Voilà. Ouais, ouais. Non, mais il faut le préciser parce que c'est un véritable engagement aussi.
Il faut dire que l'actualité, au-delà des affaires qui vous ennuient quant à la sortie du film, c'est aussi jeudi le rassemblement au Vatican de l'Épiscopat mondial pour mettre fin à ce fléau.
Donc le film va dans la logique du combat du pape. Ouais, ce qui est absolument délirant pour nous, c'est d'entendre par exemple Monseigneur Pontier qui dit il faut qu'on soit capable aujourd'hui d'écouter les victimes et qui par ailleurs dit par contre il faut pas que ce film sorte.
C'est ça.
Donc c'est tout ce paradoxe au sein de l'Église.
Il y a rien d'autre.
Moi,
j'assume de le dire, en tout cas. Ouais. C'est une totale hypocrisie. Et il y a encore un cardinal qui a été défroqué par le pape.
Absolument, par le pape.
Voilà.
C'est une semaine très chargée en termes de...
Mais non, mais c'est que surtout...
En pleine bourre, l'église catholique.
Non, mais il y a...
Je crois que c'est le mot, effectivement.
Il y a un pape qui résout des problèmes, qui prend... Et alors, pardon, mais qui se...
Il résout pas les problèmes. Non. Il a des paroles très fortes, mais elles ne sont pas forcément suivies. C'est bien ça le problème.
En tout cas, il cherche à mettre...
Il cherche, mais est-ce qu'il a le pouvoir ?
Et à confronter l'épiscopat à ses responsabilités.
C'est ça qui est
paradoxal.
Oui. Enfin, c'est quand même les positions qu'il a choisies sont plutôt encourageantes.
Ah,
bien sûr, mais vous savez, même le cardinal Barbarin dit des phrases très claires contre la pédophilie. Il dit « prêtre et pédophile sont deux mots incompatibles ». Alors pourquoi ce prêtre, le père Prénat, n'est toujours-t-il pas destitué ?
D'accord.
Donc c'est ça le problème, c'est que les paroles, on les a depuis très longtemps.
Sauf que le pape, lui, là, a vraiment défroqué, agi et viré certains cardinaux qui ont...
Il faut qu'il continue, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres.
C'est sûr. Parlons, et on va reparler de ce film, mais d'abord voyons si vous avez un tout petit peu bossé la vie et l'œuvre de François Ozon. Enfant, François travaillait déjà quand il était enfant, mais quel était son métier ?
Il était
mineur, hein.
Serveur.
Il vendait des choses.
Non, mineur,
il écrivait, journaliste, des piges. Il vendait des choses.
Non.
Sur le marché.
Il travaillait, il écrivait.
Babysitter, oui, j'ai été babysitter.
Oui, non, mais encore avant, même, j'ai envie de dire. Et ne les aidez pas, François.
C'est un métier manuel.
C'est un métier. Non, il est pas.
Il jouait. Il vendait des représentations.
Pardon.
Enfant de cœur.
Non.
Chanteur, choriste.
Regardez-le.
Comédien.
Mannequin. Oui.
Ah oui, mannequin.
Modèle.
T'as vu, j'ai dit regardez-le, tout de suite, t'as dit mannequin.
Bien sûr.
Non, j'ai pas été mannequin.
Oh bah, modèle.
J'étais modèle dans les Trois Suisses et la Redoute.
Oh, c'est chouette. Voilà. Mais dans quelle catégorie ?
En slip.
Pour les enfants.
En slip.
J'étais un enfant, j'avais été.
Déjà en slip.
Un casting avait abordé ma mère dans la rue, elle a dit est-ce que vous voulez faire photo ? Et moi, a priori, on a dit non, et puis finalement, on y est quand même allé. Et puis, à l'époque, l'argent était donné aux parents, parce qu'il n'y avait pas un compte bloqué pour les enfants, donc j'ai jamais vu un sou. Mais mes parents se sont engraissés sur mon dos.
Se sont gavés. Voilà. Quelle actrice s'est jusqu'ici toujours refusée à tourner dans les films de François Ozon ?
Isabelle.
C'est de cette catégorie-là.
Parce que du coup, Deneuve, vous l'avez eu.
Ouais, Charlotte aussi. Isabelle Carré.
Jane Birkin.
Juliette Binoche.
Vivante ou morte ?
Non. Vivante et...
Jacqueline Maillan.
Toujours belle.
Française.
Ouais.
Lynn Renaud.
Bellucci, non, c'est fait.
On l'a reçue ici.
C'est dingue.
Ah bah, oui, super.
Des belles femmes, on en a eu.
Emmanuel Devaux.
Elle réalise aussi.
Noémie Lvovsky.
Emmanuel Berco.
Non.
Valéria Bruni-Tedeschi.
Gaëlle.
Isabou Bretman.
Non.
Qui réalise aussi.
Elle réalise, c'est une star.
C'est une grande réalisatrice.
Et c'est une...
Angelina
Jolie.
Mélanie Laurent.
Donc sa vanne. Non, c'est une vanne. Bah non.
C'est vous qui considérez que c'est une vanne.
Bah, vu le sourire que vous faites, oui.
Ouais, en radio, c'était pas parlant.
Aidez-nous.
Ouais,
un indice.
Je vous aide. Elle incarne
Valérie Le Mercier.
La classe et la beauté française dans le monde entier.
Sophie Marceau.
Exactement, Sophie Marceau.
Ah ouais.
Donc, apparemment, vous êtes au froid.
Ah, pas du tout.
Bon.
Ah, pas du tout. Je pense quand un acteur dit non, il a toujours raison.
Vous avez même dit, j'arrête maintenant de lui demander, je lui ai beaucoup demandé, maintenant j'arrête.
Elle dit souvent non en même temps. C'est pas
elle fait des choix de carrière qui sont respectables. Après,
là, elle aurait pu jouer quel rôle ?
Ah non, là, je lui ai pas proposé de rôle dans ce film.
Mais alors, qu'est-ce qui vous donnait envie de lui proposer autant de choix ?
Parce que c'est une actrice qui m'intéresse, qui est une actrice, je trouve, de talent, et je trouve qu'elle a pas forcément eu les rôles qu'elle qu'elle mérite, mais c'est vrai qu'elle a orienté sa filmographie vers des comédies populaires, ce que je trouve tout à fait respectable, mais bon. Mais même, par exemple, quand je lui ai proposé Potiche, qui était justement une comédie populaire, elle a refusé le film. Mais bon, je pense que c'est aussi parce qu'elle retrouvait Gérard Depardieu, avec qui elle ne s'était pas entendue il y a très longtemps sur le film de Maurice Pialat, Police.
Et pardon, de quel, puisqu'on en parlera ce mercredi avec Michel Denisot du métier des agents, à quel point une actrice ou un acteur accepte des projets ou suit les conseils de son agent?
Je crois pas que les acteurs sont, enfin, les acteurs de ce niveau ont suffisamment de discernement, ils décident seuls. Alors, les agents conseillent, mais au final, c'est eux qui choisissent.
Mais après, être un bon acteur, c'est aussi être capable de choisir comme il faut les films. C'est peut-être aussi une autre forme de talent. C'est une facette complète qu'il faut avoir. C'est arriver, réussir à dire oui au bon moment.
Comment savoir qu'un film va être bon sur simplement une lecture?
Certains, je trouve, y arrivent quand on voit leur carrière à faire certains choix comme les
réalisateurs. C'est sûr que c'est l'anti-Isabelle Huppert dans le genre. Voilà. C'est-à-dire que il y a des acteurs qui préfèrent choisir d'abord les rôles et d'autres acteurs qui ont compris que le metteur en scène aussi était important.
Ben oui.
Dans son bureau, François Ozon, je ne sais pas si c'est toujours le cas, l'interview datée de 2013, a un grand aquarium dont il a remplacé les poissons.
Par des chats?
Non. Ah. C'est toujours le cas dans le bureau ou pas? C'est toujours le cas, d'accord.
Par des récompenses?
Non. Des serpents?
De l'argent?
Des tortues? Des Playmobil?
C'est difficile à trouver.
C'est vivant? Des Playmobil?
Oh non, je les connais.
C'est pas un truc vivant. Des Lego?
C'est pas vivant.
Ah oui, il y en a peut-être qui sont branchés par ce genre de choses.
Oui.
Des Star Wars? Des sous-vêtements?
Alors pas loin.
Des figurines?
Non.
Des chaussures?
Dans un aquarium, il y a de l'eau.
Ah, il n'y a pas
d'eau. C'est un aquarium.
Mais il pourrait y avoir de l'eau.
Une maison.
Ça supporterait.
Des baskets.
Des plantes.
Non.
Des balles. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans de l'eau?
Soyez plus pervers dans vos.
C'est coquin?
Oui.
Préservatif?
Non.
Des sextoys?
Ouais.
Ah, des.
Ouais,
dildos,
mais
des...
donc.
Sextoys, ça suffit, non?
Non, parce que ça, c'est plus. Des pour les.
Alors,
non, c'est plutôt pour les hommes.
Sextoy, c'est plutôt pour les hommes aussi. Je veux dire, tu parles
exactement
de Godemiché.
Exactement, non, je parle.
Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que François m'a pointé du doigt. Ah, peut-être que certains peuvent trouver.
Des poupées gonflables.
Mais surtout, quelle taille fait l'aquarium?
C'est vrai que c'est des poupées gonflables qui sont un peu dégonflées, mais en fait, ça vient du film Dans la maison, dans lequel il y avait des expositions d'art contemporain. Et il y avait cet aquarium qui a été créé par un artiste. Dans
une
lequel
performance, quoi.
Il a mis des poupées gonflables en bocal. Et voilà, Fabrice Luchini déambule dans la galerie d'art de sa femme, il regardait ça d'un air dubitatif.
Ah bah tiens, on va rester un peu dans le même registre. Je vous aide un peu déjà. Quelle était la particularité du film La Providence d'Alain René que François Ozon a pu voir à l'âge de 10 ans à la télé?
Il n'y avait pas de dialogue.
Il était interdit au moins de 18 ans.
Ouais, c'est ça.
Ah bon.
Il y avait le carré blanc. Il y avait le carré blanc. En fait, vous avez été attiré par le film parce qu'il avait un carré blanc.
Bah oui, c'était très excitant, enfant, quand il y avait encore des carrés blancs à la télé. Aujourd'hui, tout est possible avec Internet, on voit tout ce qu'on voulait, mais à l'époque, c'était une vraie transgression. Mes parents étaient sortis, ils nous avaient dit, tu restes sur la 3 et tu regardes le western de John Ford, et en fait, on a tout de suite zappé sur la 2, où il y avait Providence.
C'est une invitation à zapper sur...
Absolument.
Mais alors, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait de choquant dans Providence?
Bah, c'est vrai que j'ai pas revu le film. Moi, j'en ai gardé un souvenir très fort. Peut-être psychologiquement, c'est peut-être un peu perturbant, puisque c'est l'histoire d'un homme qui meurt, enfin qui est en train de mourir dans la souffrance. Mais bon, j'ai pas revu le film. En tout cas, il m'avait beaucoup plu à l'époque.
Et pas marqué à un point.
Il va pas marquer pour des raisons transgressives.
Ouais, c'est
en tout cas.
Ça. Ouais. Si François, et ça sera la dernière question, si François Ozon n'était pas le cinéaste que l'on connaît aujourd'hui, qu'aurait-il aimé faire comme métier?
Modèle La Redoute.
Non.
Musicien.
Avec un style plus grand. Quoi.
Musicien.
Non.
Musicien.
Journaliste.
Manuel, c'est un truc manuel?
Non.
Costumier, décorateur,
chercheur,
aquarelliste, fleuriste, boulanger.
C'est pas manuel.
Non.
Voinier,
non plus, ça marchera un jour,
mais
non,
prof, président, sportif.
Non,
enseignant,
alors ça fait remuer les méninges, mais c'est pas prof.
Chercheur.
Philosophie, philosophie.
Bah, essayiste.
Politologue.
Non.
Caresseur.
Non.
Écrivain. Moins bien que chercheur.
Non, c'était plutôt allongé, en fait.
Psychanalyste.
Oui, oh, bah, elle a trop trouvé. Ouais, psychanalyste, vous auriez aimé parce que vous pensez avoir l'oreille?
Oui,
non, parce qu'il avait un canapé.
Non, c'est vrai que c'est toujours passionnant d'entendre les gens parler, raconter leur vie. Alors raconter leurs rêves, je crois que c'est ennuyeux, mais
un psychanalyste, c'est pas que les rêves en l'occurrence.
Oui, non, mais on parle quand même beaucoup de l'inconscient, donc forcément les rêves sont souvent abordés.
Donc c'était un peu vous dans le précédent film avec Jérémy Régnier.
Absolument.
Et vous avez regardé l'aquarium pour recevoir.
Oui, ça peut provoquer la parole, ça peut libérer la parole.
Ça peut libérer la parole.
C'était dingue ce film.
Ouais. L'amant double.
C'était incroyable, incroyable. Reparlons alors de Grâce à Dieu, justement. Est-ce que c'est quelle a été votre démarche psychanalytique de prendre ce sujet-là, parce qu'il y a forcément quelque chose qui a trouvé une résonance en vous.
Alors au départ, je voulais surtout pas faire un film d'actualité, parce que la plupart de mes films parlent pas de l'actualité, ils sont plutôt décalés par rapport au réel. Et là, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire un film sur la fragilité masculine et montrer des hommes qui expriment leurs émotions, leurs sentiments. D'habitude, c'est plutôt les femmes à qui on demande ça au cinéma. Et donc, je cherchais un sujet sur ce thème et je suis tombé un jour par hasard sur le site de La Parole Libérée où j'ai lu des témoignages assez bouleversants et j'ai eu envie de rencontrer les membres de La Parole Libérée. Et à partir de ce qu'ils m'ont raconté, leur parcours, j'ai écrit le scénario.
Alors on va expliquer à nouveau, même si c'est une actualité toujours brûlante, ce qu'est La Parole Libérée. C'est un site qui a été, c'est ce qui est raconté d'ailleurs dans le film, qui a été créé par des victimes de l'abbé Prénat, père Prénat, pardon, qui a été ce site avait pour but à la fois de libérer la parole, comme son nom l'indique, mais aussi d'attirer d'autres témoignages qui se sont comptés ensuite par dizaines au début.
Plus de 80.
Rares étaient ceux qui parlaient. Nombreux étaient ceux où il y avait une prescription, d'ailleurs, qui ne pouvaient pas porter plainte. Et puis quelques autres ont pu, grâce à cette loi qui, en fait, vous le mettez d'ailleurs au même titre que la présomption d'innocence que vous précisez dans votre film. Mm-hmm. Détail extrêmement important, je pense, qui jouera lors du référé qui a lieu cet après-midi, vous le précisez bien, toujours pas jugé, toujours présumé innocent. Et ce qui est important, c'est de dire que la prescription est de 30 ans à partir de la majorité.
Depuis août 2018. Et moi, je raconte entre 2014 et 2016 l'affaire. Donc à l'époque, c'était 20 ans. Donc par exemple, Alexandre, le personnage principal, il a 40 ans. Donc il peut pas déposer plainte. Enfin, ici, il peut déposer plainte pour avertir, mais il est considéré comme non prescrit puisqu'on a 20 ans après nos 18 ans pour déclarer un abus.
D'accord.
Ou une violence sexuelle. Et elle est passée.
Ça, c'était le cas maintenant. Et la loi est passée à 30 ans.
Voilà, mais c'est pas rétroactif. Néanmoins, on a retrouvé environ 9 personnes qui sont non prescrites dans l'affaire Prénat.
9 personnes qui sont non prescrites. On pourrait aller plus loin en se disant il n'y a aucune raison qu'il y ait une prescription.
Dans certains pays, c'est le cas. Ouais. Dans certains pays, il n'y a pas de prescription. Mm-hmm.
Le moteur de tout ça a été... Est-ce que vous avez, eu une éducation religieuse ?
Oui, j'ai eu une éducation catholique. Je suis allé au catéchisme, j'ai fait ma première communion. Et pendant l'adolescence, la foi s'est étiolée, je dirais.
Pourquoi donc ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Parce que je pense que j'ai pris conscience très vite d'une forme d'hypocrisie au sein de l'Église. Parce que je voyais les préceptes du Christ, les évangiles, ce que ça disait, et je voyais comment les gens avaient ces discours et n'avaient pas les actes derrière. J'avais l'impression que c'était une religion de tolérance.
Pas tous,
mais ceux que j'ai pu côtoyer, c'était le cas. C'était une religion de tolérance, d'acceptation, d'ouverture, et je voyais le contraire, la manière dont c'était défendu par certains. Donc voilà, ça a disparu naturellement, mais la foi revient parfois.
Ouais.
Quand je reçois un prix, tout d'un coup, je crois en Dieu. Cet après-midi, si le juge est de notre côté, je me dis Dieu existe.
Voilà. Quand ça vous arrange. La foi n'est pas, et la croyance n'est pas, même si
elle n'est pas attaquée dans le film.
Elle n'est pas attaquée.
Non, c'est l'institution en elle-même. C'est la mécanique du silence dont on parle.
Il y a même des témoins qui disent clairement je crois en Dieu, j'aime cette religion, et c'est justement par amour pour cette religion que je ne veux pas que des personnes.
Oui, le personnage principal l'intérieur. Le dit d'ailleurs, c'est pas contre l'Église.
C'est le personnage d'Eric Caravaca qui dit ça, je fais pas ça contre l'Église, pour l'Église. Il a envie que l'Église change, il a confiance en son institution, mais elle a envie qu'elle prenne les choses à bras le corps et qu'elle règle tous ses problèmes.
Vous avez rencontré les personnes de La Parole Libérée,
les unes
après les autres.
Oui, j'ai fait une enquête en fait journalistique. J'ai rencontré les entourages, j'ai rencontré les enfants, les parents, les frères et sœurs. Et à un moment, je me suis même posé la question de faire un documentaire. Mmh. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'eux avaient des réticences parce qu'ils avaient déjà tellement témoigné, tellement parlé, ils s'étaient déjà tellement exposés qu'ils avaient envie que je m'empare de cette histoire et que j'en fasse une fiction. Et puis ils avaient tous vu le film Spotlight. Qui parle du cas à Boston de ces évêques et prêtres qui ont été condamnés. Donc ils attendaient de ma part un film qui puisse avoir un impact de la même sorte.
Ça a été simple de tourner à Lyon ?
C'était simple parce qu'on a tourné que 4 jours là-bas, on a tourné les extérieurs et puis on a avancé masqué. Le film ne s'appelait pas Grâce à Dieu, il s'appelait Alexandre. Et on a donné un synopsis un peu elliptique. 3 hommes, la quarantaine, se retrouvent, parlent de leur passé. Ça ressemblait à un film de Claude Sauté.
Ça s'est très bien passé.
Pourquoi ? Parce que vous aviez peur que ces autorisations... Parce que c'est la ville qui donne les autorisations.
Absolument.
Et ce n'est pas donc l'église ?
Si, parce qu'on avait des scènes d'église. Ah. Et Fourvière, c'est privé. La basilique de Fourvière, il aurait fallu demander l'autorisation au diocèse de Lyon, qui est dirigé par vous savez qui.
Ouais, et c'est pas compliqué de procéder comme ça, masqué, justement ? Est-ce qu'après,
non, parce
on peut
que,
pas revenir
parce qu'il y a beaucoup
vous,
de cathédrales... notamment en Belgique et au Luxembourg, et eux, ils nous ont très bien accueillis, donc on a pu tourner tous les intérieurs d'églises à l'étranger.
Et comment vous expliquez justement que l'accueil a été meilleur à l'étranger, puisque c'est
non, mais
encore
il
n'a les...
pas eu, il n'a pas été mauvais, puisqu'on ne leur a pas demandé.
Oui.
On n'a pas demandé. Donc, non, par contre, on a tourné la plupart du film en région parisienne, tous
D'accord.
les intérieurs.
C'est un...
Mais quand on voit
au-delà
la réaction
sujet,
aujourd'hui
ouais.
pour empêcher la sortie de ce film, on voit bien qu'on a eu raison d'agir de la sorte. Parce que c'est vrai que le film aurait pu être entravé beaucoup plus tôt. Déjà, ça a été compliqué au moment de la production.
Je voudrais préciser que l'invitation à cette émission et l'envie de faire la promotion de ce film est venue bien avant que l'on sache qui y a référé. Donc il n'y a pas du tout d'opportunisme.
Vous n'aurez pas invité.
Bah oui.
Il n'y a pas d'opportunisme de notre part, ni de votre part, une volonté d'exploiter...
Mais non, parce que nous, en plus, médias. On pense tous les procès étaient prévus en 2018, donc on pensait que ça serait réglé avant
surtout,
la sortie du film.
Et surtout, merci de venir et de ne pas avoir annulé, au vu d'ailleurs de tout ce qui se passait, de se dire, vaut mieux pas se
parler
prononcer, vaut mieux pas parler
aujourd'hui.
Pour
l'instant, le film sort toujours mercredi.
Mais oui, non, mais il sortira aujourd'hui, sinon on est dans un monde de fous. Ouais. Si c'est pas le cas, pour l'avoir vu, pour l'avoir aimé, je ne vois pas où est le problème, où est le souci. Vous êtes. Non, le problème.
La justice le dira.
Je parle du problème du cinéma. Le problème du cinéma, c'est un film qui s'appuie sur des faits réels, c'est précisé à la fin, vous précisez qu'il y a toujours la présomption d'innocence, à la fin vous précisez quelle est la loi, tout est extrêmement clair, ce n'est pas...
Oui, et puis c'est un film qui ne juge pas, qui n'est pas sur l'aspect judiciaire, il est sur l'aspect humain, et les gens qui vont
juger Prena... Et le travail de reconstruction des victimes.
Oui, c'est sur leur... voilà, donc on n'arrête pas de nous dire il faut écouter les victimes, ce film il écoute les victimes,
et
c'est
normal. Et pourquoi ne pas avoir fait le choix de changer juste les noms des personnages, parce que pour le coup,
vous seriez en train de me dire, est-ce que le cardinal Baratin ou Fricotin, est-ce que ce serait pas le cardinal Barbarin?
Oui, mais alors
c'était pour éviter cette hypocrisie que tous les journalistes me posent cette question. Cette histoire
après,
elle est connue, elle a été écrite,
non, mais
elle a été publiée.
François Ozon, c'est la réponse. Éventuellement, c'est répondre à une seule question et faire que, pour sûr, le film pourrait sortir tranquillement.
C'est pas sûr,
non.
Pas sûr,
pourquoi
il se serait reconnu. J'aurais quand même tourné à Lyon, j'aurais dit que cette histoire, j'aurais appelé le film toujours Grâce à Dieu, donc il nous aurait attaqué de la même manière.
Fricotin, ils auraient fait le...
Fricotin, ils auraient pas du tout aimé.
Le cardinal Barbarin, c'est pas le cardinal Barbarin, en vrai, qui...
Ah, bravo.
Dis donc, il a compris.
Putain. Yes. Yes. Ah bah, il a aussi des poupées gonflables dans son aquarium, mais c'est pour ça.
Et j'aime pas les poissons.
Grâce à Dieu, le titre vient vraiment de la conférence de presse...
À Lourdes...
Monseigneur
Barbarin qui a prononcé cette phrase malheureuse, grâce à Dieu les faits sont prescrits. Il s'est tout de suite excusé, on le voit dans le film. Il s'est rendu compte qu'il avait eu des paroles maladroites, mais pour les victimes, c'était un coup de couteau dans le dos parce que ça voulait dire que voilà, heureusement, les faits sont prescrits. Donc du coup,
on ne fera rien.
Je dirais pas on fera rien, mais en tout cas nous on n'est pas menacés.
C'est totalement dingue.
Ah ben la communication de l'Église est absolument désastreuse. Je veux dire même le fait d'essayer d'empêcher la sortie du film, alors que le pape organise
ce sommet contre
la pédophilie. Ouais. Enfin on se dit mais ils sont complètement hors sol et à côté de la plaque.
Non, il faut absolument pas que ce film soit interdit parce qu'il est d'utilité publique et encore une fois, il n'est pas là pour juger une religion. Chacun, de toute façon, je ne crois pas que ça conforte ou ça repousse des personnes qui croient ou qui ne croient pas. C'est pas un film qui fera changer la foi de qui que ce soit. Mais en tout cas, c'est un regard sur la religion et pour avoir
sur l'institution. Alors, c'est l'institution, l'Église,
et sur l'autorité.
Mais ça pourrait être une autre institution. Hein,
non,
ça se passer ailleurs.
Et aussi sur l'autorité, sur la manière dont quelqu'un qui se retrouve avec une autorité à une emprise sur des enfants peut se permettre des actes. La seule question, si je peux me permettre, que ce film pose réellement, ça fait pas partie des sujets évoqués, ça revient de temps en temps, c'est la négation de la sexualité au sein de l'Église. Parce que c'est de là aussi que vient le problème. Comment demander à des hommes comme des femmes, parce que là, en l'occurrence, ce sujet est
ce pas la négation,
hommes, mais il y a également
non, mais enfin, la restriction. Enfin, c'est
non, mais soi-disant,
c'est le rapport au corps. Moi, je pense que le problème essentiel, c'est le rapport au corps et à la sexualité. Est-ce que la sexualité est forcément liée à la procréation?
Ouais.
Est-ce que les prêtres doivent renoncer, les bonnes sœurs doivent renoncer à une sexualité? On sait que c'est une hypocrisie totale parce que c'est très compliqué. Est-ce qu'ils peuvent avoir une force morale suffisante pour renoncer à leur sexualité?
Et puis on parle de malades aussi.
Oui, et puis en plus là on parle pas d'orientation sexuelle, on parle de perversion sexuelle. Ouais. La pédophilie c'est un crime, hein, c'est une perversion.
C'est pas juste
et
une
le
pratique.
Problème c'est que pendant l'Église, pendant longtemps, je pense que l'Église n'a pas pris conscience de la gravité de ce qu'était la pédophilie. Ils ont considéré pendant très longtemps la pédophilie comme un péché, comme un autre, comme l'adultère, comme l'homosexualité. Mm-hmm. Et là ça y est, là, la prise de conscience est en train d'être faite.
Mais dans les familles aussi, on le voit dans toutes les couches du film, que c'est très, enfin, c'est compliqué, qu'il y a une négation.
Il y a les parents, qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui accompagnent,
ceux qui
sont
maladroits puis qui seraient
ceux qui sont dans la culpabilité.
Voilà, ceux qui sont fiers que leur enfant réagisse et se batte et est prêt à l'aider, d'autres qui le rejettent.
Et dans les relations amoureuses.
C'est parce que quand on parle d'un homme d'église, c'est quand même une personne qui fait autorité dans la famille, qui est aimée, qui est respectée. C'est l'équivalent de l'instituteur il y a quelques années, du maire du village.
C'est le statut du prêtre qui est interrogé dans notre société. Voilà. Aujourd'hui, et le prêtre est considéré presque au même titre que Jésus. Quoi. Il a une autorité morale absolument.
C'est un peu une forme de
beaucoup
lien
en profitent, certains, je dirais beaucoup, certains en profitent de cette autorité pour commettre ces faits.
Ouais. De voir dans le film qu'on s'en réfère à l'Église avant la justice, moi qui ne viens pas du tout de là, j'ai trouvé ça incroyable de voir ça pendant tout le début du film.
Qui est une instance au sein de l'Église.
C'est-à-dire qu'Alexandre, moi ce que j'ai aimé dans le personnage d'Alexandre, c'est qu'il est un fervent catholique, il croit en son institution et il pense...
Personnage joué par
Melville Poupeau. Il croit que les choses vont être réglées au sein de l'institution et ça dure 2 ans. Pendant 2 ans, il communique, il leur parle, il y a des échanges de mails, il y a des rencontres, il y a une rencontre qui est faite avec le père Prénat justement pour qu'il demande pardon. Il ne demande pas pardon.
Et pas cette fois, il l'a fait d'autres fois.
Il l'a fait avec d'autres, mais pas avec Alexandre, avec ce que lui reproche le cardinal Barbarin et la psychologue de l'Église. Et au bout de 2 ans, Alexandre a compris que ça ne bougerait pas, donc il décide de porter plainte et de passer à l'aspect judiciaire. Ouais.
C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que ça pourrait se passer dans un autre milieu. Alors on pourrait imaginer, j'ai essayé de trouver des dépendants, je ne sais pas, dans une fédération de football, de sport, où on a des adultes qui s'occupent d'enfants, ou dans l'éducation nationale.
Sauf que
le réflexe là ne serait pas le même. On s'en référerait directement à la justice. Ici, qu'il y a une forme de, comment dire, aussi d'amour de l'institution.
Il y a une justice religieuse qui s'appelle la loi canonique. Et ce qui est intéressant, c'est que le cardinal Barbarin, dans un premier temps, a commencé un procès canonique contre le père Prénat, qui a été arrêté et qui vient d'être pris. Enfin bon. Et je pense que si le cardinal Barbarin avait destitué ce prêtre dès le début, cette affaire n'aurait pas pris cette ampleur.
Ouais. Bon, enfin, ça resterait toujours un travail de reconstruction et de résilience de la part des victimes.
Mais ça pense que ça aurait été un geste symbolique énorme pour beaucoup de victimes qui sont elles-mêmes catholiques. C'était une reconnaissance de leur état de victime, en tout cas.
Parce que s'ils disaient pardon, en fait, tout s'arrêtait presque. On aurait pu imaginer que le personnage d'Alexandre, en tout cas, ne serait pas allé beaucoup plus loin.
Il se pose la question. Ouais. Moi, je lui ai posé la question. Il n'a pas de réponse. Ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en 2014, il était encore vraiment profondément catholique. Il avait foi en l'institution. Donc, c'est vrai que si le père Prénat, c'est une question qui se pose, lui avait demandé pardon, peut-être qu'il aurait arrêté ses démarches.
Combien d'enfants, combien de victimes ont été dénombrées?
80. Et 9 seraient non prescrites.
Mais ce qui est très touchant, c'est qu'on voit qu'il y a des profils qui sont complètement différents.
Oui.
Et à chaque fois, on a presque la même réaction qui est « Oui, mais c'est du passé, m'emmerdez pas avec ça. » Et il y a toujours ce moment où ça craque. Peu importe le profil, que ce soit, celui qui est fervent catholique.
Ouais.
Le...
Parce que ça libère la parole, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que d'entendre quelqu'un.
Mais au départ, c'est, oh non, c'est du passé, m'emmerdez pas avec ça. Tous ont plus ou moins cette réaction, et à un moment.
C'est le personnage de Denis Ménochet, qui est dans le déni
au début. Complet.
Mais lui, il a une histoire particulière, parce que ses parents se sont très bien comportés. Ses parents ont entendu sa parole, parce que c'est très difficile d'entendre la parole d'un enfant, parce qu'un enfant n'est pas capable de formuler ce qui lui est arrivé. Lui, il a juste dit, le père Prénat m'embrassait sur la bouche, je suis fier de ça. Et les parents lui ont posé après des questions, ils ont compris qu'il lui avait touché les fesses, enfin bon, certains faits. Donc les parents ont agi, ils sont allés voir le diocèse, ils ont demandé que les camps de scouts soient arrêtés. Enfin voilà, donc ils ont très bien agi. Donc le personnage de Denis Ménochet, il a l'impression que ses parents ont réglé le problème à l'époque.
Et son combat était surtout qu'il ne soit plus au contact d'enfants.
Voilà, et donc les parents ont pensé avoir réussi leur combat à l'époque, sauf qu'ils se rendent compte que ce père a continué à être au contact d'enfants, de faire des cours de catéchisme. Et là, forcément, le personnage de Denis Ménochet explose et ça le rend fou.
Et encore au moment du film, il y a une scène où on voit le père en question qui exerce
cours de catéchisme. Avec
ça a pris beaucoup de temps avant que le cardinal Barbarin décide de lui enlever sa fonction de... Enfin, d'avoir une responsabilité religieuse au contact d'enfants.
Grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon est un film à voir et j'ai presque envie de le conseiller aux enfants aussi, que des parents aillent avec leurs enfants pour que justement le silence, quel que soit le silence, que ce soit au sein de l'église ou au sein même de la famille, de se dire aussi, il y a un oncle, un cousin, le voisin, un ami qui a des gestes qu'il ne faut pas accepter. Mmh. Au moins se dire que il faut parler, il faut dire les choses et ne pas laisser le silence parce que c'est un adulte, il a toujours raison. C'est comme ça aussi que certains enfants sont éduqués. Non, il y a des adultes qui ont tort et il faut que les enfants parlent et que la parole de l'enfant soit plus souvent écoutée aussi, ce qui n'est pas le cas.
Mais c'est en train de changer. Je pense que les jeunes parents aujourd'hui ont pris conscience de ça.
Il y a encore du boulot.
Il y a encore du boulot, mais la génération de nos parents, c'était pire.
Non, mais quand je dis encore du boulot, il y a encore du boulot chez les juges pour écouter la parole d'un enfant.
Oui.
Ça aussi, il y a encore du travail. On remet toujours en cause ce qu'un enfant dit, même si à la brigade des mineurs, ils ont fait aussi d'énormément de progrès où ils ne demandent qu'une seule fois à un enfant face à une caméra de raconter ce qui s'est passé
et c'est filmé,
comme avant où il fallait répéter 25 fois à 25 personnes différentes pour remuer le couteau dans la plaie. Mais on est en bonne voie, il ne faut pas arrêter
désespérer.
De se battre, en tout cas, absolument. Grâce à Dieu, le film sort ce mercredi et je vous encourage.
C'est un père. Si Dieu le veut.
Et c'est un père de famille qui vous le dit. Je vous encourage à aller le voir avec vos enfants. Vraiment, c'est un film qui va être un succès et qui doit être un succès.
Donc là, je dois faire des blagues. Là, très bien. Allez, merci. Non, parce que et déjà, je voudrais souligner quand même autant les films de François Ozon, c'est formidable. Autant faire des chroniques humoristiques sur vos films, surtout le dernier, c'est quand même pas simple. Je refais le pitch pour les gens qui nous rejoignent à l'instant. Un prêtre qui abusait d'un enfant. Enfants d'ailleurs continuent d'exercer et d'anciennes victimes se rendent compte et décident de l'énoncer, mais l'Église ne réagit quasiment pas. En même temps, faut pas leur en vouloir à l'Église, ils le savent pas. Enfin, ils savent qu'il y a des enfants qui sont tripotés, mais ils savent pas que c'est interdit, c'est vrai. Ah bah, a priori, non, ils le savent pas. Peut-être qu'il y a une traduction en latin qui a sauté, je sais pas, mais sinon, pourquoi ça continue, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un sujet qui prête moins à rire que la pédophilie? Je crois pas, hein. Et puis on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Même si c'est tentant, hein. Mais bon, s'il y a des catholiques, très catholiques qui nous écoutent et qui sont offensés par le fait que je dise tous les prêtres sont pédophiles. Voilà, vous pouvez imaginer.
Non, je peux pas généraliser.
Du coup, ils peuvent imaginer qu'à peu près, ce que vivent à peu près les musulmans qui se font traiter de tous des terroristes. Donc
vrai,
oui, il y a des pédophiles dans l'église. Mais déjà, est-ce qu'on n'arrêterait pas avec les statues de petits anges à poil, le zizi à l'air? Ça, je pense que c'est une première étape qui est importante.
Hein. Et puis. Ils ont pas de sexe, les anges.
Ouais, mais aussi, il y en a quand même qu'on. Enfin bon, bref.
Je te montrerai des photos.
Et puis, doit-on être surpris de ce qui arrive? On laisse un monsieur, vêtu d'une robe, qui n'a pas le droit d'avoir des relations charnelles, encadrer des enfants, et il leur raconte des histoires d'un homme qui a marché sur l'eau. Il n'y a rien qui choque personne. Est-ce que vous laisseriez votre enfant avec un mec qui se traveluche raconter des histoires de drogués?
Non.
Je ne pense pas. Parce que, désolé, moi aussi, j'adore les histoires de super-héros, mais Jésus, ses pouvoirs, déjà, ils sont nuls. Transformer l'eau en vin, multiplier les pains à Marvel, ils n'ont jamais eu l'envie d'en faire un film. Et puis, je pense vraiment qu'il faut les aider, les prêtres. On entend souvent, s'ils avaient le droit de se marier, il n'y aurait plus de pédophilie. Mais quand il y a des enseignants célibataires, l'éducation nationale, elle cherche pas à trouver une femme ou un mari pour leur donner une classe. Donc c'est débile, c'est bien qu'il y ait un problème. Moi, je pense que si ces prêtres avaient le droit de se marier, ils feraient des enfants, mais rien dit qu'ils en abuseraient pas, parce que ce sont avant tout des pédophiles. Mm-hmm. Ce qu'on dit, ce sont des prêtres pédophiles. Mais c'est une connerie, j'ai jamais entendu dire Marc Dutroux, l'électricien pédophile. Mm-hmm. Pédophile n'est pas un complément de profession, c'est pas un serrurier cordonnier. Et quand un prêtre se retire de l'église, quel mot a été choisi? Défroqué. Donc là, aux États-Unis, il y a le cardinal Macari qui a été défroqué par le Vatican parce qu'il est accusé de pédophilie. Très bon choix de vocabulaire. Et le plus génial, c'est que le père Bernard Prena, qui est accusé d'actes pédophiles dans l'affaire Barbarin, et qui, je le rappelle, est présumé innocent, a demandé à ce que le film ne sorte pas avant au moins un an, car le film nuirait à sa présomption d'innocence. Et on saura cet après-midi si le film peut sortir mercredi. Alors vous savez quoi? Si le film peut sortir mercredi, foncez tous le voir. Et vous trompez pas de salle, parce que il y a encore, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Ça aurait pu être aussi le titre du film.
C'est pas la même question.
Ça aurait pu être le titre du film, et grâce à Dieu, vous en sortirez un peu moins con.
Bonne émission.
François Ozon, vous avez fait votre casting comment d'ailleurs? Est-ce que vous l'avez fait en vous rapprochant du physique de l'envergure? Je pense à Denis Ménochet, qui est un
qui est un nounours
en plus. Ouais.
C'est vrai que c'était adorable. Très particulier parce que j'avais les visages des vraies personnes pour tous les rôles. Donc on s'est vraiment posé la question lors du casting avec le directeur de casting et ça a pris pas mal de temps en fait pour trouver la bonne personne et très vite on a oublié les ressemblances physiques, on est plus allé sur la sensation moi que j'avais eue en face des personnes. Donc pour Alexandre Melville Poupeau,
sur un ressenti de psy.
C'est un peu vous Melville Poupeau.
C'est pas moi. Moi je suis plus François, je suis plus Denis Ménochet. Oui, j'ai plus tendance à mettre les pieds dans le plat, à être un peu plus brutal.
Physiquement, avec le petit col,
toi tu parles de physiquement. Ouais, ouais. Non, lui parle du caractère.
Ah, ouais. Moi je parle de caractère. Non, Melville c'est parce qu'il a lui-même la foi, il le dit, il est catholique, enfin il est chrétien.
5 enfants.
Non, il en a une fille.
Dans la vie.
Non, mais Melville Poupeau, je parle.
Je vais à personnage.
Pardon. Donc Melville, ça s'est un peu imposé. Denis, je le connaissais bien parce qu'on avait travaillé pour Dans la maison ensemble. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui a cette carapace d'ogre, voilà, et en même temps qui est extrêmement sensible, qui est très fin. Et donc, je trouvais qu'il correspondait bien au personnage. Le seul que je connaissais pas, c'était Swann Arlo. Mais je l'avais vu dans Petit Paysan. Et je l'avais trouvé très émouvant. Et je cherchais quelqu'un un peu écorché vif. Et c'était parfait pour le personnage d'Emmanuel.
Ça marche. Non, mais Denis Ménochet, sur un clignement d'œil, est capable de faire tout basculer. Ouais. D'ailleurs, comment travailler avec des comédiens comme ça? Ils sont tous, je le redis, extrêmement justes. Il y a des plans serrés, il y a des plans où ils sont nombreux, il y a beaucoup de réunions d'ailleurs pour La Parole Libérée où ils sont une vingtaine dans un salon. Vous tournez avec plusieurs caméras, vous tournez avec plusieurs prises, comment ça se passe?
Oui, on tourne avec plusieurs caméras. C'est vrai qu'il y avait un film qui avait été important pour moi, c'est 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, où il y avait aussi beaucoup de scènes de groupe et beaucoup de discussions. Et en voyant le film, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, voilà, on peut filmer la parole sans que ce soit ennuyeux, ça peut être vivant. Donc, on a tourné ces scènes un peu dans la continuité. J'ai pas coupé les acteurs, ça durait 5-10 minutes, on filmait, on avait plusieurs caméras et on captait ce qui nous intéressait. Pense que pour les acteurs, c'est très agréable parce qu'ils sont, ils se laissent aller, il y avait une part d'improvisation parfois, c'était assez fort.
Il y a même on sent souvent qu'il y a de l'improvisation, notamment dans les interruptions, dans les regards, les soupirs, les jeux.
C'est-à-dire que la caméra vole des expressions, des choses qui sont pas forcément très conscientes des acteurs.
Ont-ils rencontré les victimes?
Pas avant la première projection du film. Ils ont pas souhaité.
D'accord. Pas pour préparer le rôle.
Non. Par contre, moi je leur en avais beaucoup parlé. Ils avaient le scénario, ils avaient les témoignages sur le site de La Parole Libérée. Ils avaient vu quelques interviews, mais ils ont pas essayé d'être dans la ressemblance. Ils voulaient vraiment créer des personnages originaux. Et je pense que pour une fiction, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire.
Ah ouais. C'est une réussite. Ça s'appelle Grâce à Dieu et c'est au cinéma ce mercredi. Voici Agnès Hurstel.
Bonjour, alors rien à voir, moi j'ai réfléchi ce week-end à cette petite polémique de parent 1, parent 2, et j'ai trouvé la solution pour réconcilier les gens et réchauffer les cœurs, la chanson française. Je pense d'ailleurs que la pratique du karaoké peut sauver l'humanité, je crois que c'est Hannah Arendt qui disait ça, et que chanter un bon Natacha Saint-Pierre apaiserait n'importe quel facho en syndrome prémenstruel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur France 2, qui s'appelle N'oubliez pas les paroles présentées par ce type hyper
quoi
charismatique
Nagui
non hyper quoi je veux
l'adjectif. Non, allons-y. La seule règle ce matin c'est de remplacer donc père et mère par parent 1 et parent 2. Donc par exemple comme on l'a vu sur Twitter ce week-end, NTM devient nique ton parent 2, tout de suite il fait beaucoup moins peur le gros Didier. Donc c'est parti, première musique.
Allô maman,
à vous de chanter, pardon, à tout le monde, allez-y. On se
allô parent 2 mon bobo.
Exactement. Vas-y.
Ah c'est joli,
mon dieu.
Allô parent 2 bobo.
Allô parent 2.
Allô parent 2 bobo.
C'est bizarre, voilà, merci. C'était donc Alain Souchon. Ensuite on enchaîne avec. Allez-y. C'était Stromae,
c'est mieux,
hein,
ça,
parent.
C'est n'importe quoi.
Parent 1 ou Tay, parent 1 ou Tay, je sais pas comment on dit. Ensuite.
C'est chaud là.
C'est chaud.
Si parent 2
tu es ma vie.
Et puis c'est où, c'est où? Mais parent 2, il y a trop de pieds. Ça rentre pas.
Si parent 2 c'est très difficile.
C'est,
c'est lamentable. Et la dernière, ma préférée pour la fin.
Bien dans ma tête,
Parents de...
Comment vient l'émotion?
Parents de...
Regarde comme ta fille est faite.
Parents de...
Ouais, il y a que Nagui qui est hyper sérieux sur ce jeu, je comprends.
Non,
c'est ma vie que t'as entre tes mains.
C'est vrai.
Je chante tout le temps, moi.
Tu veux une dernière?
Ah oui.
Allez, une dernière pour Leïla.
Maman est folle.
Tu la connais pas,
c'est
aussi.
C'est juste le premier mot, quoi.
Bah ouais, c'est compliqué, là.
Ok, merci, c'était William Scheller. Ce jeu se décline. Bon, c'est Nagui qui a gagné, je suis désolée,
bravo,
les gars.
Nagui,
vous étiez tous endormis.
Le cardinal du karaoké. Hein.
Ce jeu se décline évidemment pour tout ce qui est cinéma. Hein. D'ailleurs, je propose de changer dès maintenant tous les titres pour que tout le monde soit d'accord. Plus de discrimination. Neuilly, sa mère, devient Neuilly, son parent 2. Parent 1, j'ai raté l'avion. Le ciel, les oiseaux et ton parent 2. Le parent est une ordure. Les dents du parent 2. Et mon préféré, évidemment, Todo sobre mi parento uno de Pedro Almodovar. Non, mais il n'y a pas d'espagnol dans la salle, il n'y a pas de problème. Non. Allez, c'est un du match.
Ah, c'est
sur mon parent 2.
Tout sur ma mère.
Tout sur ma mère.
Todo sobre mi parent.
C'est la mère qui est parent 2
Je sais pas.
Ah non, mais
bah, c'est parent 2.
Bah, c'est la polémique. C'est ouais. Qu'après, les gens ne veulent pas être catégorisés comme ça. Donc, on propose de cocher des cases.
Dans la logique, c'est parent 1 papa, parent 2 maman. C'est pire.
Mais sauf que maintenant,
c'est l'inverse.
Parent 1 maman. Aussi deux pères ou deux mères.
C'est ça.
Oui, et ça pose problème.
En tout cas, c'est ça qui est génial avec les trucs hyper futiles, c'est que ça fait oublier les vrais problèmes. Hein. Je précise que si on est friand de littérature, on peut aussi revisiter le triptyque de Pagnol, la gloire de
donc mon parent.
Voilà. Et c'est sans fin. Bonne semaine, les amis.
Merci.
La bande originale, la vie sur France Inter.
En 1967, dans l'univers familial, on va dire, François Ozon, vous écoutiez... Cette musique-là vous renvoie à l'appartement de papa-maman?
Pas du tout.
Ah, c'est à quoi alors?
Non. Bah, vous m'avez demandé une date en 1967, donc j'ai regardé l'étude de 1967 et j'aime bien cette chanson et voilà.
Ah non, ce qu'on voulait savoir, c'est dans quel univers musical vous aviez grandi?
Ah oui, alors j'aurais pas du tout choisi ça, effectivement.
C'est quoi alors? On écoutait quoi à la maison?
Ma mère écoutait beaucoup Jacques Brel, donc j'aurais choisi une chanson de Jacques Brel. Mais je suis pas fan de Jacques Brel. Donc...
Maman prof de français.
Maman prof de français.
Et on l'a bien compris, parent 1 et parent 2 vous ont spolié.
Oui,
donc,
absolument.
L'argent, vous n'en avez pas vu la couleur de votre...
Enfin, dans mon éducation.
Oui, en tout cas, vos photos de modèles à l'époque, vous n'avez pas vu l'argent. Vous venez d'une famille plutôt nombreuse, 4 enfants. On a parlé de l'éducation catholique reçue. Le rapport au cinéma dès l'enfance, c'est quoi
Bah d'abord, c'est un divertissement. Après, mes parents étaient plutôt cinéphiles.
Vous avez grandi dans le quartier latin, où il y en a pas mal de
cinémas.
Non,
au Gobelin.
Ah bon, je reste au quartier.
Enfin bon, c'est pas loin. Il y a des cinémas. Ouais. À l'époque, il y avait beaucoup de cinémas. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un cinéma en face de chez mes parents qui n'existe plus aujourd'hui. Non, je suis allé beaucoup au cinéma enfant et commencé par voir, comme tout le monde, des films populaires pour les enfants. Et puis petit à petit, voilà, j'ai regardé Providence. Ça m'a fait bifurquer.
Voilà. Il y a Sissi quand même au début.
Ah oui, j'étais fan de Sissi, de Romy Schneider, mais aussi de Tarzan avec Johnny Weissmuller. Enfin voilà, il y avait beaucoup de films, de très bons films qui passaient à la télévision aussi. On faisait aussi son éducation cinéphile à la télévision à l'époque.
En 90, vous entrez à la Fémis et peut-être que vous écoutiez... Jimmy Somerville qui était venu ici dans ce studio puisqu'il continue sa carrière, ses tournées, qui a toujours la même voix d'ailleurs, toujours une physique de gamin, de bambin. Cette musique-là, oui, correspond à la Fémis.
Oui, plus ou moins. Oui. C'est une chanson de Françoise Hardy, écrite par Gainsbourg. Et voilà, je suis fan de Françoise Hardy et j'avais beaucoup aimé cette reprise.
Et l'entrée à la Fémis en 90, c'est la sensation, sans doute pour la première fois, d'être enfin à votre place.
Oui, c'est vrai, parce que j'étais pas forcément un très bon élève. Et là, c'est un concours quand même assez difficile, la Fémis, et je l'ai réussi. Donc j'étais fier d'y être arrivé.
Et est-ce que vous aviez la sensation d'être raccord avec vos autres camarades de promo quant au cinéma dont vous rêviez ou à vos références? Parce que c'est toujours ça aussi, d'être dans une promotion.
On était 40 dans la promotion, donc il y a des gens dont je me sentais plus ou moins proche. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le concours était assez compliqué et très sur l'écrit. Et donc il y a des gens qui sont rentrés, qui sortaient de Sciences Po, de Caïn, Hippocaïn, et c'était c'est pas forcément des gens qui ont continué à faire du cinéma après. Ouais. Donc je sais que la formation du concours est différente aujourd'hui. Mais c'est vrai que des gens qui sont juste visuels n'avaient pas beaucoup de chance de rentrer au...
Vous avez gardé une bande de potes?
J'ai gardé certains techniciens avec qui je suis resté proche et qui je travaille toujours.
Ah,
oui.
Super. Ouais. En 2002, on fait un bond, vous écoutiez Robbie Williams. Et puis il y a surtout toutes les musiques et toutes les chansons de 8 femmes. Ouais. Comment vous les avez choisies, ces chansons?
Je les ai choisies, je me suis amusé à faire un double casting. Il y avait les actrices, les chanteuses, donc il y avait des équivalences populaires. Voilà, Catherine Deneuve, Sylvie Vartan, Fanny Ardant, Nicoletta. Bon, ça c'était peut-être un peu bizarre.
Ça, c'est génial.
Firmin Richard, Dalida, Ludivine Vincella, voilà. Donc
puis,
c'était un
papa,
jeu.
Papa, t'es plus dans le coup avec Parent 1, vas-y.
Voilà, exactement. Isabelle Huppert, Françoise Hardy aussi.
Ah non, mais il y avait une pure BO en tout
ouais,
cas.
Il y avait, ouais,
un casting assez incroyable, un film qui parle finalement de votre amour et de votre passion pour les actrices, parce que c'est une façon de leur rendre hommage.
Ouais.
C'est
Je ne l'ai pas proposé à Sophie Marceau, ce film-là.
Ah, pourquoi
c'est
donc
pour ça.
Non, parce que je n'avais pas assez de place, il y en avait 8, il y avait voilà,
9 femmes,
il aurait
ça
fallu
marchait
9
pas.
Ou 10 actrices.
Ouais, c'était vraiment une déclaration d'amour aux comédiennes.
Absolument.
Et c'est votre plus gros succès à ce jour?
En France,
en box-office, ouais.
En France, ouais.
3 millions, plus de 3 millions et demi, 4 millions.
Ouais.
En attendant, évidemment, le succès de Grâce à Dieu qui sort ce mercredi. Bernadette Sauvager, merci. Vous êtes journaliste, merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste spécialiste des questions religion à Libération. Vous avez suivi la véritable affaire de Bernard Prénat, le prêtre pédophile. Et encore une fois, il l'a avoué, il a reconnu, il a jamais contredit qui que ce soit sur ses actes de pédophilie.
Et il l'a d'abord avoué à sa hiérarchie et très tôt. Mmh. Donc il y a plusieurs épisodes où il avoue, je crois même dès les années 70, avoir un problème avec
Monseigneur de Courtrai.
Voilà, avoir un problème avec les enfants. Et il le reconnaît lors d'une rencontre avec le cardinal Barbarin. Si je me souviens bien, ça doit être en mars 2010. Et il le reconnaît aussi pendant l'enquête policière et devant les juges.
Et il écrit en 91 des courriers dans lesquels il le reconnaît aussi aux parents de François Deveau, qui est joué par Denis Ménochet.
Donc voilà. C'est une forme de non-assistance à personne en danger que de savoir depuis si longtemps les agissements de cet individu et de ne pas l'avoir arrêté.
Vous avez suivi ça pour Libé, c'est-à-dire vous étiez à Lyon, vous l'avez rencontré, vous avez rencontré des victimes qui se sont...
Je n'ai pas rencontré le père Prénat, puisque
d'accord.
Moi j'ai commencé à travailler sur cette affaire quand elle a été publique, quand la parole libérée l'a rendue publique.
D'accord.
J'ai rencontré...
C'est-à-dire c'est à peu près quand?
Janvier 2016, l'affaire démarre.
C'est la conférence,
de
presse de la parole de la parole libérée. On sait qu'il y a eu un communiqué de presse du 2016 à l'automne qui annonce qu'il y a un prêtre.
En 2015.
Voilà, en octobre 2015 qui annonce qu'il y a cette affaire. Et je crois que ce qui change tout, en fait, moi je voulais juste vous dire une chose, c'est que ce qui change tout, c'est effectivement qui est cette association. C'est-à-dire qu'en fait, ces victimes, et on le voit dans le film de François Ozon, ces victimes agissent ensemble.
Ouais.
Elles se confortent les unes les autres. Je crois que les victimes peuvent entendre...
À échanger, même si elles ne sont pas d'accord, en tout cas elles échangent et elles s'écoutent.
Ouais. Je crois que leur souffrance et leur douleur, elles peuvent la partager. Et ça change tout et ça donne, je crois, ça leur donne beaucoup de force.
Vous avez vécu cette affaire et vous continuez de la suivre, j'imagine, pour Libé. Avec le recul que vous pouvez avoir et que on a... sûrement pas nous, comment expliquer l'impunité, comment expliquer le silence, comment expliquer la gestion approximative, on va dire, de l'Église française?
Alors effectivement, enfin, il y a un mystère dans l'affaire Prénat. On en a parlé avec François Ozon. Il y a un grand mystère, c'est que il n'y a pas de fait avéré après 91. On ne sait pas si c'est en ce qui concerne les actes de pédophilie du père Prénat. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Enfin, il y a ce grand mystère.
Il avait 50 ans hein, dans les années 91. Donc, est-ce qu'un pédophile s'arrête à 50 ans? C'est la question.
Voilà. Donc il y a ce grand mystère, il y a ce grand trou noir qui reste encore une énigme. Donc c'est derrière cela que se retranche le cardinal Barbarin en disant mais il n'y a pas de fait avéré après 91. Donc pourquoi
en gros ça changerait quoi? La prescription en fait, c'est ça.
Grâce à Dieu, les faits sont prescrits.
C'est ça.
Voilà.
C'est fou.
C'est sa phrase. C'est ça.
Sa phrase. Je crois qu'effectivement on est alors dans le cas du cardinal Barbarin, on est dans un contexte un petit peu particulier parce qu'il appartient quand même malgré tout. Je le dis là parce que je l'ai écrit et réécrit dans Libération. Il appartient pas malgré tout à une génération qui arrive après l'année 2000, c'est-à-dire la première grande affaire de pédophilie dans l'Église, qui est l'affaire Piquant, le premier évêque, et je pense que c'est une première mondiale, qui est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir couvert les agissements du père Bisset, c'est-à-dire Pierre Piquant, l'évêque de Bayeux et de Caen. À ce moment-là, ça provoque un tremblement de terre dans l'épiscopat français. Il décide de prendre en main ce dossier. Le cardinal Barbarin appartient à cette génération qui était là, à Lourdes, quand on leur a expliqué ce que c'était que la pédophilie. Oui. Et on s'aperçoit, on va dire, 15 ans plus tard, que finalement, on est dans un espèce de remake. Et c'est ça qui est, je pense, terrible.
Donc, pour vous, rien n'évolue. Les mentalités évoluent quand même.
Je vais faire une mauvaise blague. Je vais dire que je suis comme saint Thomas, je crois, ce que je vois.
Elle n'est pas mauvaise.
Et le nouveau pape, justement, le pape François, qui semble, en tout cas, peut-être
Benoît
XVI
avait
plus
eu des paroles très dures hein, contre la pédophilie.
Mais il ne s'était rien passé pour autant.
Et certaines personnes disent que Benoît XVI est parti justement à cause de ça. Il a fait partir parce qu'il avait des désaccords profonds.
Ouais.
Je ne suis pas d'accord avec notamment la thèse de. Je le dis aussi parce que je viens de l'écrire publiquement. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec la thèse de Frédéric Martel qui fait du pape François le grand héros de la bataille contre la pédophilie dans l'Église. Je crois qu'il faut effectivement rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Je ne sais plus comment on le dit.
À César.
Mais en tous les cas, le premier qui a ouvert ce dossier, et il faut lui savoir gré malgré toutes les choses qu'on peut lui reprocher par ailleurs, c'est Benoît XVI. Et je pense que François, il a fallu du temps. Je pense que jusqu'à mars 2018...
Vous parlez du pape quand vous dites François
ou le pape François.
D'accord,
oui.
Parce que là, j'ai trop de François là, dans ma vie.
C'est votre surnom maintenant.
Le pape François a eu de gros errements sur ce dossier. Il a protégé le cardinal Pell, qui est en ce moment, qui était son numéro 3 au Vatican, qui est en ce moment jugé en Australie pour des cas lui-même d'abus sexuels et pour en avoir couvert d'autres. Il ne faut pas oublier ça. Il a eu des errements terribles dans un voyage qu'il a fait au Chili en janvier 2018. Et c'est ça qui a provoqué, on va dire, un changement radical. Donc il a convoqué ce sommet à Rome et on verra ce qui va s'y passer à la fin de la semaine.
Est-ce que cela remet en cause le célibat au sein de l'Église? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ça résoudrait tous les problèmes?
Non.
Alors, je ne crois pas, moi. Enfin, voilà, je vais laisser François vous
répondre. Je vous laisse répondre. Vous connaissez mieux le sujet que moi.
Écoutez, on a interviewé un certain nombre de spécialistes, de psychiatres, et qui vont tous à peu près dans le même sens, et qu'il n'y a pas de corrélation. Moi, je crois fondamentalement que la pédophilie ne peut pas être une sexualité de substitution. Ouais, la pédophilie est une perversion. Ce qu'on dit aussi d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'inceste dans les familles. Ouais. Donc, on va dire que ça prouve. Après, je pense que dans la gestion des cas de pédophilie, cette question-là existe. C'est-à-dire qu'il y a un malaise, on va dire, global par rapport à la sexualité dans l'Église catholique, et où tout se mélange, où tout se confond. C'est la fameuse notion du péché.
Oui. Avez-vous été surprise de tous les référés qui tombent à bras raccourcis sur François Ozon et sur le film Grâce à Dieu?
Écoutez, pour bien connaître l'affaire, effectivement, le film de François Ozon ne fait que dire ce qui a déjà été écrit et réécrit.
Donc comment vous expliquez que tout d'un coup, il y a cette attaque-là? En termes de communication,
ce que vous pensez?
Moi, ce que je pense, alors effectivement, je suis très surprise, par exemple, que ce soit Régine Maire qui fasse ce référé.
Qui est la psychologue de
Barbarin. Est-ce que c'est parce que le cardinal Barbarin ne peut pas le faire?
Ah, donc elle continue d'être son bras droit, quoi.
Voilà,
son
homme de Paris. Juste poser cette question.
Sauf que c'est contre-productif, ce que disait François, en termes de communication, justement.
En termes de communication, c'est désastreux.
Avec le sommet de jeudi, avec le pape. Avec
je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, depuis une heure, ce référé a lieu à Lyon.
Non, il a été reporté de 3 heures.
À 16 heures.
Parce que figurez-vous que.
C'était à 11 heures.
Il y avait des grèves. Il y a eu un problème de caténaire sur la ligne Paris-Lyon.
Grâce à Dieu.
Donc mes avocats qui partaient à 7h. Vous arrivez 3h en retard, donc ça va avoir lieu à 14h avec les avocats de Régine Maire.
Inch'Allah.
Merci.
Non, c'était une vanne. C'était une vanne. Merci beaucoup Bernadette Sauvager d'être venue. On continuera de vous lire évidemment dans les colonnes de Libération. Tanguy Pastureau, Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Un glacier en Antarctique Ouest, mais les scientifiques en émoi.
Oui, il fait 300 km sur 120, 4 fois la Corrèze, sauf qu'il n'y a pas François Hollande, mais des manchots qui se déplacent avec la même prestance. Et ce glacier qui est au sol se détache à cause de la chaleur, il va vers l'eau où il va fondre. C'est comme dans le verre de François Damiens, mais en énorme, avec au bout la montée des océans.
Il me semble que c'est la deuxième partie de la bande originale.
Ah,
il
bien
vous
vu
semble...
Là, il y a François Ozon qui va sortir un animal en direct.
On voulait... Mais vas-y, sors-le, François. Il a son ours.
Vous voulez voir mon ours ?
Il a l'ours.
Oui.
Bah,
je dis comme ça, attention.
L'ours.
Il y a des chouettes. Peut... Mais je veux bien, Bravo, j'arrive.
Tu veux voir mon ours ? Mais il est en argent. Oh, il est génial. Oh,
grosse blague.
Wow. Il est génial.
Je vous laisse entre vous.
C'est
bien.
Merci.
C'est pas le même prix.
Non, non,
c'est...
Merci Laetitia Gaillet. Elle revient à 13h, il aura le journal. Et puis je vais faire une photo que je vais mettre sur le site de l'émission parce que c'est, il est gravé.
C'est vous qui le mettez sur le site?
Oui, bien sûr. Il est un peu community manager aussi, Nagui. Il a plusieurs casquettes et tout. En photobombe.
Non, plus toi. Comme, oui, bon, ça, voilà. Comme ça, il y aura.
C'est bien radiophonique.
Il y aura. Et puis c'est personnalisé, il a une soutane en plus.
À tout à l'heure.
Le père Teddy. Ouais.
Vas-y, Nagui, applaudis.
C'est la bande originale avec Lila Kadour Boudadi. Agnès Hurstel.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Agnès.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Pastureau. Et notre invité avec son ours d'argent, François Ozon.
Bravo. Bravo à tous les deux.
Ce que je vais souligner, c'est qu'il était sculpté, gravé et signé, grâce à Dieu. Voilà, c'est-à-dire que non seulement il y a eu le vote, il vous a été remis. Vous y étiez d'abord, pardon?
Oui, bien sûr, j'y étais samedi soir. Le jury était présidé par Juliette Binoche, donc c'était très agréable d'avoir ce prix.
Et c'est elle qui vous l'a remis personnellement?
Non, c'est un autre membre du jury dont j'ai oublié le nom, mais voilà.
Alors qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? C'est-à-dire que c'est comme un soulagement dans une période en plus de tension.
C'est un soulagement parce que tout d'un coup on se dit voilà, le film est reconnu par vos pairs, le film va sortir dans le monde entier, et c'est pas qu'en France, ça va être aussi dans les autres pays. Donc,
malheureusement le sujet est mondial.
Hélas, oui. Et c'est vrai que le film s'est vendu tout de suite en priorité dans les pays qui catholiques, hein. Italie, l'Espagne, ça s'est vendu, ils ont même pas vu le film, ils ont dit oui, on achète tout de suite. L'Amérique du Sud aussi, ça s'est vendu très très rapidement.
Si l'Église n'était pas intervenue, c'était l'ours d'or. Vous vous rendez
compte? C'est possible.
Après, c'est un bon, franchement. Ouais.
Grâce à Dieu, le film sort ce mercredi avec un casting, j'allais dire, impressionnant. Il est surtout juste, c'est ça qui est formidable dans le jeu des acteurs, avec Denis Ménochet, Melville Poupeau, Swan Arlo, Eric Caravaca, Hélène Vincent qui est...
Et Josiane Balasco, les deux.
Bouleversante.
Moi, c'est une actrice que j'adore, Josiane Balasco. Je l'adore forcément pour les comédies qu'elle a faites, mais lui donner un registre dramatique, c'est quelque chose que j'avais envie de voir. Quoi. Je sais qu'elle avait fait d'autres films précédemment, mais là, elle apporte une humanité en très peu de temps, hein, parce qu'elle a très peu de scènes, mais tout de suite, on croit à son personnage et elle s'est mise à la hauteur des autres. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'il n'y avait pas de caprice de star sur ce film. Tout le monde était sur le... Au même
et en plus, ils ont les rôles, enfin je sais pas s'il y a des rôles qui sont plus faciles ou plus difficiles, mais le rôle des parents qui savaient, qui ne disaient rien. Et
alors il y a ceux qui savaient, ceux qui n'ont rien vu, qui parce que l'enfant n'a pas la parole de l'enfant à l'époque n'était pas sacralisée comme elle peut l'être beaucoup plus aujourd'hui, donc beaucoup de parents n'ont pas compris.
Puis au-delà de la parole de l'enfant, c'est aussi face à qui, quoi.
Voilà, absolument. Et puis il y a des parents qui disent, nous on a eu l'impression que notre enfant n'avait pas vraiment souffert, qu'il n'était pas traumatisé, parce qu'un enfant ça masque, un enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est ça qui est important à dire, c'est qu'un enfant est dans un état de sidération, donc il n'y a pas forcément forcément des signes évidents qu'il a été violé, abusé, touché. Donc souvent les signes apparaissent bien plus tard. Donc certains parents n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir.
Et peuvent, comme c'est le cas dans le film, devenir de véritables handicaps physiques, en tout cas pour certains de ces enfants.
Ça transforme votre vie, enfin ça bouleverse complètement votre vie. C'est ça qui est absolument vertigineux, c'est qu'il suffit d'un geste d'un adulte sur un enfant qui peut traumatiser l'adulte que va devenir cet enfant.
Et le comédien qui joue le père Prena, accepté tout de suite.
Alors c'est Bernard Verlet, oui, ouais. Un très bon acteur.
Il est formidable.
Alors j'ai fait un long casting, j'ai vu beaucoup d'acteurs, et ce que j'ai aimé chez Bernard Verlet, qui est un grand acteur de théâtre et de cinéma, qui avait tourné avec Éric Rohmer notamment, c'est qu'il a apporté une humanité, ce qui est paradoxal, un personnage qui n'est pas forcément sympathique sur le papier, mais il a apporté une forme d'innocence à cet homme, ce qui rend les choses d'autant plus complexes, parce que moi j'ai eu l'impression en lisant ses déclarations que cet homme n'avait pas pris conscience du mal qu'il avait fait, et donc je l'ai dirigé un petit peu dans cette optique.
Non, et puis il continue d'échanger des sourires, des tutoiements,
c'est-à-dire qu'il voit ses victimes d'une quarantaine d'années comme si elles étaient encore des enfants. Et c'est ça ce qu'il y a de plus dramatique.
Grâce à Dieu au cinéma, donc ce mercredi, du grand François Ozon, du grand cinéma, un film à voir.
En grande salle.
Voici sur un grand écran. En grande pompe. Voici Tanguy Passion.
Le grand.
Gigantesque.
Tanguy, vous allez nous parler de la planète.
Oui, Nagui, je sais que vous en avez marre. Il y a un an et demi, vous avez embauché un mec qui faisait des blagues sur le chien de Macron. Résultat là, vous vous farcissez une sorte de Nicolas Hulot-bisme et qui se lave les cheveux. Moi. Mais j'y arrive plus à rire des petites choses de la vie pendant qu'on va à la catastrophe. Le matin, je me regarde dans la glace et je me dis, Tanguy, mon amour, réagis. On s'en fout en fait que Laurent Wauquiez ait troqué sa parka contre un anorak tout aussi moche. Certes, il s'habille comme dans un porno des années 80. Le rôle du type poivre et sel qui dit à la skieuse Nympho, tu veux la voir ma marmotte. Mais tu vas pas faire un papier là-dessus. Parce que toutes les semaines, les scientifiques nous apprennent une mauvaise nouvelle. Mais moi, je serais eux, je pèterais une éprouvette à l'aide d'un bec benzène et je me trancherais les veines avec en écoutant du Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat est la clé d'un suicide réussi. Tous les morts vous le diront. Il y a 8 jours, c'était la disparition des insectes. Et en effet, on peut faire 700 bornes en Fiat Punto sans croiser une mouche. La bagnole, si vous la garez en bordure d'un champ de la Beauce défoncé aux pesticides, elle fond. Hein, moi, j'ai une amie qui avait des implants ma mère, elle est allée à la campagne, là elle fait un 85A. Et hier, funeste journée, il faisait 23 degrés à Biarritz, en février. Mais tout le monde kiffe. J'ai regardé le JT de TF1, pas celui de la 2, parce que le week-end, il y a Leïla et ça me rappelle le boulot. Hein, je regarde juste de la hausse, parce que là, ça me rappelle qu'il faut que je fasse un gommage du visage. Et au Pays Basque, ils étaient super heureux. 23 en février, sur TF1, on voyait des gens qui disaient « Purée, c'est cool, on bronze, on est bien, on a fait une terrasse, on a pris 4 bouteilles, Dédé, tu nous remets la petite sœur ?» Tout le monde s'en tape, mais moi non, parce que février, j'ai pas encore fait mon régime de printemps, je peux pas me dessaper au bord de la mer. Si le vendeur d'articles de plage me chope, il va me remettre avec les bouées entre une licorne gonflable et un flamant rose pour poufias d'Instagram. Mais on en est à un tel point de déni de la part de la population que si demain une météorite s'apprête à frapper la Terre, les mecs au camping diront juste « Ah la vache, celle-là elle est balèze, si elle tombe sur le terrain de boule, elle va dégommer le cochonnet de Riton. » Alors j'ai une théorie personnelle, qui est qu'on a tous intériorisé le fait que c'est fini, que la fin du monde est là. C'est pour ça qu'on s'en fout. Les dinosaures, ça a fait pareil. Je suis sûr qu'ils sautaient sur leurs œufs en fumant des palmiers avant la fin. Donc 23 à Biarritz, alors qu'on devrait se peler le même jonc que Ségolène Royal quand on l'envoie se faire lécher la face par des huskies au pôle Nord. Oh. On adore. Et tant mieux, parce que le meilleur reste à venir, la montée de la mer. Alors je vous explique, si vous avez une maison à Trouville, vendez maintenant. Parce que dans 20 ans, vous dormez dans un kayak dans le salon. En Antarctique, cette région aussi blanche qu'une soirée à Hollywood, il y a le glacier Thwaites, 120 km sur 600, qui est en train de fondre. Parce que là-bas, c'est pareil, il fait trop chaud. Hein, mais comme les pingouins ne boivent pas d'anisette, sur place, personne n'en profite.
Ouais, ce glacier géant fond à quel rythme?
Il perd un demi-kilomètre par an. Donc là, le climato-sceptique appelle Laurent Romeshko des chiffres et des lettres et lui dit, dis-moi Lolo, 600 km de long, le glacier un demi-kilomètre par an, on en a encore pour 1000 ans à tirer. J'espère que Maître Gims n'a pas trop d'inédits parce que j'ai envie que cette période soit agréable. Sauf que, selon les scientifiques, dont France Info a publié les travaux hier, moi j'aurais mieux fait de prendre France Dimanche en kiosque, qui écrivait juste en une « Drucker en deuil ». En fait, il a écrasé une puce d'un de ses chiens. Sauf que donc, le glacier est en train de se détacher du sol, va se mettre à flotter, entraînant d'autres glaciers, puis tout l'Antarctique. Donc là, vous me direz, on s'en tape de l'Antarctique, il n'y a pas un Sandro pour se saper autrement qu'en polaire. Sauf que le glacier qui était sur Terre, il se retrouve dans la mer, quand il fond, ça fait encore plus d'eau, et Emmanuel Lemeur, scientifique français, annonce que le niveau des océans va monter de plusieurs mètres, pas dans 50 ans, pas dans 30, pas dans 20, là. C'est-à-dire que la mère Hidalgo, avec son Paris-Plage en toc, elle n'aura plus besoin de faire des bacs à sable, la mer à Paris, on l'aura. Mais pire, la Hollande va disparaître sous les eaux. Et comment on va faire pour fumer de la... pour en apprendre un peu plus sur les œuvres de Van Gogh, hein? Éric Grignot, professeur en sciences de la vie à l'Université de Californie, craint, je le cite, hein, un scénario catastrophe. On parle de 3-4 mètres de montée des océans. Georges Pernoud va l'avoir mauvaise de s'être fait dégager de Thalassa, parce que les trois quarts du globe, ça va être la mer. Il est passé à rien d'être number one. Mer qui ronge toutes les côtes. D'ici 2100 en Belgique, le niveau marin va menacer 1,8 million d'habitants. Nous, à Inter, on a déjà 3-4 humoristes belges. Bah, l'avenir, c'est qu'à terme, il n'y aura plus que des Belges ici. Des réfugiés climatiques que la France aura accueilli parce qu'ils sont blancs et blonds, pas comme les Africains qui ne font aucun effort sur leur couleur. Tiens, justement, la ville de Saint-Louis au Sénégal est déjà à moitié dans l'eau. L'archipel des Kiribati dans le Pacifique est en cours de submersion. Les Kiribati et à terme toutes les îles. Et ça va se tourner où, Koh-Lanta ? Dans le Bas-Rhin ? Interrogés sur ce qu'il faut faire, les scientifiques de la NASA plus des universités américaines ont répondu hier « c'est impossible à arrêter ». Voilà, voilà, voilà. Bonne semaine à tous. Hein, en mars à Biarritz, il fera 34, mais au JT de TF1, les gens diront, c'est super, on a pu manger une glace.
Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est évidemment drôle ce que fait Tanguy Pastureau, mais c'est tellement vrai que ça en est dramatique. L'écologie, la planète, c'est un
prochain sujet de film.
Des sujets qui ont une résonance chez vous.
Ah oui, bah évidemment, bien sûr, oui.
Bien sûr quoi?
Bien sûr, oui, mais moi j'essaye à mon petit niveau, voilà, de faire des choses. J'essaye de pas trop prendre l'avion. J'essaye de.
Est-ce que vous pensez que de la même manière qu'un film peut changer un regard sur une affaire ou sur une situation au
sein
de...
Il y a un film qui est sorti il y a quelques années de Cyril Dion et
Mélanie
qui a eu un énorme écho auprès des gens. Je pense que les jeunes générations ont extrêmement conscience de la gravité des faits, donc c'est à eux de...
Ah mais le problème c'est pas la jeune génération, le problème ce sont nos dirigeants dans le monde entier.
Comme dans l'église quoi.
Ouais.
Non mais c'est... Vous ça y est, vous avez le sujet de mon prochain film.
J'aimerais...
Je suis obligé de faire le film là-dessus.
Bah ouais.
J'aimerais. Non
oui,
mais ce qui est affolant, c'est d'entendre que, et Tanguy Pastureau a raison, des spécialistes, beaucoup de spécialistes disent
que c'est trop tard.
C'est trop tard. Ouais. C'est trop tard. Et Hubert Reeves à ce micro, quand on lui avait dit mais la planète risque de mourir, il nous avait dit.
Mais dit tant mieux même.
La planète sera toujours vivante. C'est notre race. C'est l'humanité. Ouais. C'est l'espèce qui va. Oui, c'est pas la race, tu as raison. C'est l'espèce qui peut disparaître, la planète, elle, qu'elle devienne une boule d'eau, une boule de feu ou autre, la planète continuera d'exister. Non, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui sont préoccupants, justement, pour en revenir au sujet de Grâce à Dieu, qui est également un sujet alors, d'autant plus préoccupant que ça serait plus facile à gérer et à régler que celui de l'écologie et de sauver la planète. Vous avez eu écho de l'affaire comme tout un chacun, dans la presse, dans les médias, d'une manière
de manière superficielle. J'avais lu quelques articles et c'est vrai qu'au départ, c'était pas cette affaire qui m'intéressait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ces hommes, ces victimes, comment ils s'étaient reconstruits. Et donc, après, le film a pris une autre dimension avec l'actualité. Mais au départ, c'était pas le fait divers que je voulais traiter. D'ailleurs, c'est pas ce que je traite.
De la même manière qu'on essaye de vous empêcher de faire votre art et de vous exprimer librement, vous êtes-vous posé la question, vous aussi, d'attendre, de voir ce qui allait se passer pour y rajouter d'autres choses aussi au film, parce que c'est vrai que ça s'alimente de jour en jour.
Oui, enfin c'est sûr que je peux faire la suite, hein. Grâce à Dieu numéro 2, Grâce à Dieu numéro 3, il y a de la matière. Moi, je raconte les faits entre 2014 et 2016, parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est la création de l'association, c'est la réunion de toutes ces personnes qui découvrent que chacune, toutes ces victimes ont vécu chacun ce drame. Donc ils se réunissent, ils unissent leurs forces, et ça va jusqu'au avant les procès. Hein. Donc, c'est vrai que je pourrais raconter la suite maintenant.
Vous avez cherché à respecter une chronologie ou à dresser vraiment
des
portraits différents.
Non, c'est-à-dire que la construction en effet domino, avec un passage de relais, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est d'abord Alexandre qui, au sein de l'institution de l'Église, essaye de faire bouger les choses. Après, c'est François qui contacte les médias, qui crée l'association La Parole Libérée. Et après, c'est Emmanuel qui est dans le système judiciaire.
Avec aussi des exemples de victimes qui en deviennent d'ailleurs violentes en refusant de témoigner et en voulant maintenir un couvercle et cacher ce qu'il y a.
Oui, c'est très compliqué de parler. Voilà, c'est ce que je montre. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Il y a des gens qui ne veulent pas parler parce que c'est trop compliqué par rapport à leur entourage, par rapport à eux-mêmes. Il y en a un qui dit, voilà, si je parle aujourd'hui, il y aura écrit sur mon front victime de pédophile jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que j'ai envie de ça? Donc, c'est le cas de beaucoup de gens, hein, et de beaucoup de femmes aussi qui sont victimes de violences. Enfin, voilà, quand on a vécu quelque chose comme ça, est-ce qu'on est prêt à l'assumer, de le dire? Surtout que souvent, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de traces. Donc, c'est parole contre parole. Donc, il faut être sûr de son fait, surtout quand on passe devant la justice, parce que vous êtes cuisiné après par les juges. Donc, c'est vraiment héroïque d'oser libérer sa parole.
Grâce à Dieu, c'est au cinéma demain et grâce à la direction de France Inter. Voici Daniel Morat. À cause.
Merci François Ozon. Merci, mais non, désolé, ça ne sert à rien. Votre film est remarquable, ok, mais l'action de vos héros pour nettoyer l'église n'y changera rien. C'est foutu, la religion, ça ne marche pas, non. L'avenir, il est en ce moment même exposé jusqu'à ce soir à l'espace Champéret, porte de Champéret, dans le 17e arrondissement de Paris, avec le salon Parapsy, le salon du corps et de l'esprit. Pas de bullshit avec des méchants curés qui vous embrouillent style Nagui et qui vous emmènent prier tout nu sous la tente. Non, là c'est du concret avec Parapsy. Que des trucs qui fonctionnent, c'est des voyants, des marchands d'huiles essentielles, de bijoux en minéraux ou en bois, des gens qui vous prennent en photo et qui vous disent d'après la photo ce qui va vous arriver. C'est du solide. Ta vie c'est de la merde? Tu ne crois plus en rien? Tu cours moins vite qu'un curé? Tu n'as jamais été sélectionné pour jouer à N'oubliez pas les paroles? Bref, tu vas en finir? Stop! Oui, stop! Et pour retrouver foi en l'avenir, pour savoir de quoi sera fait cet avenir et pourquoi pas augmenter tes chances d'avoir un meilleur avenir, va immédiatement au Salon Parapsy, porte de Champéret à Paris. Le Salon Parapsy, c'est le rendez-vous des gens sérieux. Des voyants qui vous disent et vous expliquent quasi scientifiquement pourquoi ça ne va pas chez vous. Vous avez des problèmes avec la police? À chaque fois que vous quittez le pays, demandez une consultation avec le docteur Benalla, surnommé docteur passeport. Vous deviendrez aux douanes un vrai passe-muraille. Vous avez des problèmes avec les impôts? Le marabout Balkany pour en 30 secondes, vous désenvoûtez du fisc. Et ça marche pour résoudre tous les problèmes. Écoutez plutôt le témoignage de Marie-Jennifer, chômeuse depuis toujours et qui ne trouve pas de fiancé et qui se demande bien pourquoi. Bonjour Marie-Jennifer.
Bonjour.
Marie-Jennifer, vous ne trouvez pas de travail, pas de fiancé? Vous êtes désespérée?
Bah grave.
Marie-Jennifer, vous êtes allée au salon Parapsy?
C'est ça.
Vous avez trouvé une réponse?
Oui, effectivement. J'ai pris une consultation avec un docteur qui lit dans les narines. C'est une nouvelle technique scientifique, il m'a dit.
Et alors?
Et alors, il a trouvé ce qui n'allait pas chez moi.
C'est super, ça, Marie-Jennifer. Et qu'est-ce qui ne va pas alors? Pourquoi pas d'employeur, pas de fiancé?
Ben, le docteur, il a dit que c'est parce que j'étais conne.
Ah. Et alors?
Ben, j'ai demandé à ma famille, à mes voisins, ils ont confirmé. Mon problème, c'est que je suis conne.
Il vous a montré la voie pour vous en sortir?
Absolument. Il m'a conseillé un collier en pierre magique du Tibet et il m'a dit de manger des brocolis.
Et ça vous a coûté combien?
100 euros pour la consultation et 8000 pour le collier.
Ah, apparemment, il a eu un très bon diagnostic. Merci, Marie-Jennifer. Vous voyez, ça marche même pour Marie-Jennifer. Alors, vous pouvez y aller en toute confiance. Le salon Parapsy, le salon qui dit oui à la vie. À noter que si vous avez des problèmes financiers, un stand de Crédit Express vous permettra de bénéficier d'un prêt à taux de bâtard, peut-être. Mais vous pourrez vous offrir un peu de rêve, peut-être un soupçon de mensonge, mais bon, trois fois rien. À très bientôt. Bon, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter du salon Parapsy 2019. Et si vous loupez l'occasion, eh ben dites-vous que c'est pas grave. Et peut-être que c'est même mieux. Grâce à Dieu, allez, on y va, on y croit. Et on peut y croire, grâce à Dieu, on l'a pas assez dit, est un film en partenariat avec France Inter.
On est fiers.
Eh oui, cher. À demain.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
Mais on en est fiers. Et si ça n'avait pas été le cas, on serait tout aussi élogieux sur la qualité du film, la qualité du jeu, la qualité de la réa et l'urgence, l'importance du sujet et de le mettre sur un grand écran, parce que je suis sûr que ça va libérer encore d'autres paroles. Et ça va faire du bien.
C'est ce qui fait peur, justement.
C'est ça le problème.
C'est bien ça le problème. C'est
exactement ça. Bah, si. Les témoignages après 80 ans.
Ce qui fait peur à l'église, ce qui fait peur à ceux qui veulent faire taire, justement. évidemment la parole. Mais ça va faire du bien à la société, voilà. Et ça va surtout faire comprendre, encore une fois, à des familles, à des enfants, qu'il faut parler, parce que l'arme de ces salauds, c'est le silence. Et on le comprend et on le ressent bien, y compris, et c'est aussi votre force et votre élégance, aucune scène ne peut empêcher justement des parents d'y aller avec des enfants, parce que on comprend, voilà, on passe derrière une porte, on ferme la porte, on ne voit pas ce qui se passe derrière la porte, mais tout est suggéré, tout est compris, et les regards suffisent à comprendre le désarroi.
Oui, c'était un vrai enjeu de est-ce qu'il faut représenter ces faits ou pas, et très vite, pour moi, c'est irréprésentable. Par contre, ça peut être suggéré, et voilà, comme la parole explique ce qui s'est passé, il n'y a pas besoin de montrer les images là-dessus, le spectateur fait son propre travail.
Une journée de dingue quand même, celle que vous allez passer aujourd'hui avec ces histoires de référés. Oui. Non mais c'est incroyable.
Je vais aller faire une sieste peut-être.
C'est pire. Non mais vous avez dormi cette nuit ?
J'ai très bien dormi en fait. Si, c'est vrai. Parce que comme j'étais à Berlin, on a fait la fête, on s'est couché très tard. Donc j'étais fatigué. Mais ce matin, je me suis réveillé avec le journal de France Inter et la première chose, il parle de grâce à Dieu. Je me dis, ah oui, c'est aujourd'hui. Voilà.
Ouais, on vous ramène à la
réalité.
À la réalité. Mais encore une fois, bon, moi, je suis très optimiste et souhaitons, je suis même sûr, que l'intelligence remportera face à l'aveuglement et la
violence. De toute façon, c'est un mouvement général, c'est un mouvement général. Ça va dans le sens de l'histoire.
Bah oui, évidemment. Puis au bout du compte, il faut aller voir ce film qui sort ce mercredi, qui fait du bien. Alors, est-ce que vous êtes déjà mis dans l'autre film ?
Oui,
vous n'avez pas encore réglé le problème de grâce à Dieu, mais est-ce que vous êtes déjà dans une autre histoire ?
Je suis pressé d'arriver à l'autre, je dois avouer. Non, j'ai une idée, un film beaucoup plus léger, plus simple.
Une comédie ?
À moitié, en partie.
Et ce pas film que. Sur le climat avec la méchante Evelyne Delia.
Alors ça sera pour dans un ou deux ans.
Non, oui. Non mais alors comment vous fonctionnez, comment vous choisissez vos sujets ?
C'est pas moi qui les choisis, ça s'impose. Après il y a des désirs qui se cristallisent à un moment et voilà le sujet s'impose. Après il faut être sûr.
Il s'impose en fonction de votre éducation, de votre vécu, de vos amis.
Oui, de mon vécu, de la vie. Pour moi il n'y a pas de problème de sujet en soi. C'est problème de désir, savoir. Quelle histoire on a envie de raconter, parce que des histoires il y en a partout, vous ouvrez le journal, vous parlez avec des amis, voilà, il y a toujours quelque chose à raconter d'intéressant, après il faut trouver l'histoire sur laquelle on a envie de s'engager pendant plusieurs années et se battre comme c'est le cas aujourd'hui.
Il faut quoi derrière ? Des valeurs à défendre ?
C'est différent à chaque fois, des fois ça peut être une excitation de travailler avec un comédien, une comédienne, une forme cinématographique différente, là c'était parler de ces hommes qui expriment leurs émotions, leurs sentiments. Voilà, à chaque fois, c'est une expérience nouvelle et c'est ça qui est excitant.
Et le prochain, alors ?
Le prochain, je vous dis, c'est en partie une petite comédie. Voilà. Mais ça sera léger. Ça sera plus léger.
Ouais,
avec qui je reviendrai ?
Vous avez envie de faire jouer, à part Sophie Marceau, qui d'autre ?
Il y a plein d'acteurs avec qui j'ai envie de travailler, mais c'est d'abord, j'écris d'abord les rôles et après, je trouve l'acteur idéal.
Et vous avez tous dit oui ?
Non.
Non. Parce que Daniel est libre.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Hyper dispo.
Denis Ménochet, Melville Poupeau, Swan Arlo, Eric Caravaca, Hélène Vincent, Frédéric Pierrot, Jeanne Balasco. Ce beau monde réuni, entre autres, autour de François Ozon pour Grâce à Dieu. Et c'est une leçon aussi, alors au-delà du sujet, de la forme, une leçon de cinéma et de jeu et d'interprétation qui est extrêmement agréable. Ouais, tellement bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé déjà. Pour Madame Villa, qui a découvert ce matin, grâce à François Ozon, que son compagnon, Tom, était un bonnet doublé d'un pervers. Fallait nous demander, Madame Villa, nous on était au courant, vous aurez renseigné. Désolé pour Sophie Marceau, bien entendu, dont le talent, la carrière, les choix, la coiffure, le physique, l'enfance, l'avenir, les fringues, le chien, et encore d'autres choses ont été insultés, salis, tambourinés, salis par François Ozon. Franchement,
c'est Nagui, c'est pas moi.
Non. Te fâche pas, c'est la grande famille du cinéma.
Je l'aime et je l'embrasse.
À base d'engueulade et puis d'engueulade aussi. Alors désolé pour François Ozon, pour conclure, j'ai appris la pause que Nagui comptait réparer l'injustice financière que vous avez subie enfant en vous proposant dès la fin de cette émission une séance de photos rémunérée. Toujours en slip. Mais rémunéré. Personnellement, je ne veux pas assister à ça. Il y a beaucoup trop de fringues.
Ouais, moi non plus, je ne veux pas assister à ça. Demain, nous parlerons d'un film dans lequel votre comédienne Paula
Bert.
Paula Bert,
voilà. Ah oui, qui était
à l'Affiche de France. Exactement. Ouais. Et puisqu'elle est dans Le Chant du Loup.
Voyez-le, c'est un très bon film.
On l'avait découverte grâce à vous dans France. Mathieu Kassovitz et François Civil seront nos invités demain. Et n'oubliez pas, après-demain, mercredi, d'aller au cinéma voir Grâce à Dieu. Merci François Ozon.
Merci à vous.
Et plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes
on
et vibrations.
Pour cet après-midi.
Absolument. Philippe Bertrand, les carnets de campagne, c'est
oui,
tout de suite.
Bonjour les amis.
Salut.
Je vous ai écouté avec intérêt comme à chaque fois. Et il n'y a pas de doute, il y a un truc qui cloche à l'église.
Oui, cloche à l'église, évidemment.
Bon.
Évidemment.
Et à part ça, quoi de neuf?
Festival.
On y va parce qu'au quatrième pop, il sera 12h30.